Lille Info reçoit aujourd'hui Youssef Boudjemaï, qui est directeur des missions transversales de la Sauvegarde du Nord et membre du conseil scientifique des conférences de l'espace culture de Lille. Youssef Boudjemaï, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, on va parler aujourd'hui du travail social et des travailleurs sociaux. On est dans un monde où les problèmes sociologiques, les problèmes de société n'ont pas tendance à s'estomper. On peut dire peut-être que les difficultés économiques peuvent jouer dans ce problème. Je ne sais pas, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a déjà un bilan qui est fait de la corrélation?
Un bilan, non, je pense pas, mais en tout cas des effets certainement, hein, dans la mesure où une partie de ce qu'on appelle communément le travail social s'adresse à des personnes en situation de précarité économique. Donc forcément, la situation sociale et économique touchant des millions de personnes, bien évidemment, amène des hommes, des femmes et des enfants à avoir recours à des prestations sociales qui sont gérées par les travailleurs sociaux et être amenés à soit effectivement avoir des difficultés en termes de logement, en termes de santé, qui de ce fait les amènent dans leur parcours existentiel à rencontrer des travailleurs sociaux. C'est indéniable. Après, bon, en termes de bilan, de chiffrage, les choses sont toujours un peu plus compliquées, mais il va sans dire que la situation s'est fortement dégradée au cours de ces dernières décennies.
Est-ce qu'on peut dire que la région Nord-Pas-de-Calais est très touchée par ce problème ?
Elle est touchée. Je crois que là, on sait tous que nous avons une des régions les plus sinistrées sur le plan de l'emploi, hein, en raison de la dégradation économique depuis une trentaine d'années, et que le tertiaire, même s'il s'est développé au cours de ces décennies, n'a pas permis de couvrir ou de recouvrer un certain nombre d'emplois. Donc forcément, si je prends un exemple, celui de la métropole lilloise, le secteur de l'action sociale se situe comme deuxième bassin d'emploi. C'est-à-dire, nous avons une majorité d'emplois dans le secteur de l'action sociale, secteur public et secteur privé associatif confondus, dans la métropole lilloise. Dans le Cambrésis, par exemple, le secteur de l'activité dite action sociale ou plus largement de l'activité économique et solidaire est le premier employeur. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, la donne économique dans des poches, dans des territoires du département du Nord, sont liées bien évidemment à l'action sociale. Voilà, c'est quand même une donnée loin d'être négligeable.
Est-ce que ça veut dire que les collectivités, l'État, injectent énormément d'argent, plus que dans notre région, dans ce secteur, et pour essayer de compenser? Est-ce que ça compense réellement les difficultés réelles des gens?
D'abord, l'État a désinvesti un certain nombre de champs de compétences relevant de l'action sociale depuis les lois de décentralisation. Il y a eu un certain nombre de transferts aux collectivités territoriales. Les derniers en date, bien évidemment, c'est le RSA. Ce qui fait dire à un certain nombre de personnes, d'ailleurs, que l'État-providence aujourd'hui succède le département Providence. Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, de par la réorganisation des logiques relatives aux politiques publiques sur des territoires, nous avons des inégalités territoriales. Nous n'avons plus cette logique, je dirais, d'égalité territoriale à partir d'une politique étatique, mais plutôt des politiques sociales amenant les collectivités territoriales à prendre en charge un certain nombre de compétences qui auparavant étaient dévolues à l'État. Or, comme les situations économiques, sociales et démographiques d'une région, d'un département à l'autre ne sont pas les mêmes, il est évident que le département du Nord est le premier à avoir une dépense budgétaire au niveau, pardon, du RSA, une des premières, voire même la première sur le plan national. Bon, c'est dire que quand même que de ce point de vue-là, il y a de réelles inégalités sur le territoire national.
Au niveau des communes, quelle est la marge de manœuvre des communes? Quelles sont leurs missions dans ce domaine, si elles en ont?
La répartition des champs de compétences fait que les communes ne sont pas en première ligne de l'action sociale, mais il n'en demeure pas moins que, de par la réalité des choses, elles interviennent. Elles interviennent à travers les politiques de jeunesse, interviennent de par l'implication des communes et du maire dans les centres communaux d'action sociale. Voilà, donc elles sont aujourd'hui des collectivités... Elles sont une des collectivités territoriales qui contribuent fortement à la politique d'action sociale sur un territoire donné.
Je pense qu'on peut quand même parler, même dans notre région, d'inégalité entre des communes. Il y a des communes qu'on dit riches, d'autres pauvres. Est-ce que ces communes qui sont déjà pauvres sont d'autant plus appauvries qu'elles ont à faire face à des situations sociales auxquelles elles doivent répondre ?
Oui, bien évidemment, c'est ça toute la difficulté. C'est qu'en fonction de la configuration démographique et des données socio-économiques de certaines communes, elles font face à des actions sociales dites de solidarité qui ne sont pas de la même ampleur selon certaines communes. Il est évident.
Le problème du chômage, qui est très important hein, dans notre région, c'est à la fois... une contrainte économique, mais aussi un problème social, voire psychologique pour les gens qui vivent ces difficultés.
Il est évident que quand une personne n'est plus en mesure d'être inscrite dans l'appareil de production, c'est pas simplement le fait de ne pas avoir un emploi, c'est tout ce qui va avec l'emploi, c'est l'utilité sociale, c'est la participation à l'échange symbolique que procure un travail. Et quand tout cela vient à manquer, il est évident que ça génère un certain nombre de difficultés qui sont d'ordre psychologique, d'ordre social, et qui amènent à des situations d'une très grande gravité, bien évidemment, et qui peuvent produire, bien évidemment, des effets en termes de santé aussi, en termes d'isolement social, et en termes aussi d'attitude, de conduite aussi politique, c'est-à-dire, d'une certaine manière, une défiance à l'égard du politique, à l'égard du corps politique.
Non, Youssef Boudjemaï, on a parlé tout à l'heure de l'importance du nombre des travailleurs sociaux en France, et notamment dans notre région. Comment sont-ils formés et est-ce qu'il y a par rapport à cette formation ou au fonctionnement de ces travailleurs sociaux une spécificité française ?
C'est un secteur relativement jeune. Les diplômes nationaux sont apparus à la fin des années 60. Finalement, si on prend la mesure du temps historique, c'était hier. Donc aujourd'hui, le cadre de formation de ce qu'on a des formations sociales, formant un certain nombre de métiers, l'éducateur spécialisé, le moniteur éducateur, les assistants sociaux, etc. Aujourd'hui, s'encadrer par un certain nombre de textes et s'enfermer principalement dans des centres de formation majoritairement du secteur associatif, de manière minoritaire au sein de l'enseignement public. Je pense notamment à l'UIT carrière sociale de Roubaix, mais ça reste quand même une exception. Voilà, donc l'exception française vient aujourd'hui sans doute d'un modèle de formation Répondant à une logique d'alternance, c'est-à-dire à la fois un temps d'apprentissage théorique en centre de formation et puis un temps de formation à travers des stages dans des lieux aujourd'hui qu'on appelle des sites qualifiants, bon, ce qu'on appelait traditionnellement auparavant les lieux de stage, c'est-à-dire les établissements, les services en travail social accueillant des stagiaires. Donc cette singularité est aujourd'hui une singularité bien nationale. Sur le plan européen, nous avons à peu près, aujourd'hui nous avons une tendance qui va vers une diminution quand même, un effacement de ce modèle par alternance. Et c'est un peu dommage quand même. Hein.
Donc diminution de l'alternance qui est remplacée par quoi ? Directement le diplôme et on travaille tout de suite ou...
Aujourd'hui, le modèle de formation des travailleurs sociaux par alternance n'est pas remplacé, mais il pourrait l'être demain dans une logique d'intégration de la formation des travailleurs sociaux, soit en lien avec l'université ou dans ce que aujourd'hui on appelle les hautes écoles en travail social qui sont en termes de projets en gestation. Hein. Mais pour l'instant, le modèle d'alternance demeure pour l'instant.
Alors, pour ces jeunes qui s'engagent dans des carrières social, oui. Travailleurs sociaux. Il faut des qualités, je suppose, assez particulières. Il faut tenir le coup, entre guillemets, après, dans la profession. C'est difficile.
Alors, oui, on a toujours tendance un peu à faire cette remarque en disant, non, la spécificité du travail social n'est spécifique que de par la singularité du secteur professionnel. La profession d'enseignant, les professions de la santé ont aussi leur spécificité et nécessitent aussi une posture, une attitude et une conduite qui requiert également un certain nombre d'aptitudes et de compétences. Donc, il n'y a pas à mettre le travail social dans une position particulière, sinon que celle de sa propre singularité.
C'est vrai que beaucoup d'enseignants ont contesté le fait de pouvoir mettre des jeunes enseignants directement en contact avec des élèves sans avoir cette partie pratique.
Bien sûr.
Est-ce que le risque ne va pas s'étendre justement aux travailleurs sociaux d'une manière globale ?
Non, parce que le travail social, alors l'état actuel des choses n'est pas organisé de la même manière. L'enseignant, il est seul dans sa classe. Donc, bien évidemment, il est obligé de faire face à un groupe d'élèves. Et alors qu'en général, quelques exceptions près, le travail social reste quand même globalement un travail d'équipe. Bon, même si, bien évidemment, il y a des séquences où les salariés sont amenés à travailler seuls. Hein. Mais globalement, ça reste quand même un travail de nature collective. Et ce qui fait que, du coup, la question de la transmission, la question de la solidarité est davantage prise en compte que dans d'autres secteurs, et en l'occurrence celui de l'enseignement.
Dans un contexte social où les difficultés ne se résorbent pas, visiblement, comment le travailleur social peut valoriser son apport et comment peut-il être évalué, par exemple ?
Valoriser son apport, en effet, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, la légitimité du travail social, en lien avec ce qui lui est souvent reproché, à savoir son efficacité. On ne peut pas demander au travail social de résoudre les problèmes d'emploi, de logement, alors que l'État, les collectivités territoriales, depuis de nombreuses années, s'y coltinent. Donc ça c'est une chose. Donc de ce fait, sa légitimité n'est pas de pouvoir faire mieux que ne peuvent le faire les appareils d'État ou des collectivités locales, c'est de pouvoir accompagner les hommes, les femmes, les enfants dans l'accès aux droits qui sont les leurs en matière de santé, de logement, de protection de l'enfance, de l'accès à une formation professionnelle, afin de pouvoir prendre part à la communauté de citoyens au regard de leur réalité. Ça, il me semble, c'est l'objectif premier, c'est d'inscrire les personnes dans le droit commun. Et la deuxième chose, c'est qu'à travers les situations complexes que peuvent vivre ces hommes, ces femmes et ces enfants, c'est aussi de leur offrir les conditions possibles de construire aussi une identité et une reconnaissance dans le corps social. Non, à travers des modalités d'accompagnement qui sont propres aux professionnels selon leur domaine d'intervention. Alors, la question de l'évaluation, après, bon, c'est un grand débat aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'on évalue ? Si on évalue l'efficacité, je pense que là, on se trompe de terrain. Si l'évaluation procède d'une production de connaissances collectives sur nos manières de faire, à ce moment-là, l'évaluation a un intérêt. Il ne s'agit pas d'être contre l'évaluation, il s'agit de savoir quel sens et quel objectif on lui donne. Si c'est une évaluation dans une logique d'instrumentalisation ou qui n'a que comme objectif le résultat sans prendre en compte que la construction de ce résultat dépend d'un certain nombre de facteurs, on se fourvoie. C'est évident. Or, je pense que l'évaluation aujourd'hui, que ce soit dans le travail social et que ce soit dans l'enseignement, puisque cette question est quand même d'actualité, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles hier bon nombre d'enseignants sont descendus dans la rue, n'a de sens que si elle est prise dans une dimension collective. Mon travail ne peut être évalué que dans le rapport au travail des autres, puisque son résultat dépend aussi de la part du travail des autres.
Alors parlons de ce rapport au travail des autres. Est-ce que le travailleur social bénéficie du soutien ou de la concertation avec d'autres types de personnes, notamment les gens qui travaillent dans les professions paramédicales, les psychologues, voire les médecins?
C'est très variable, hein, parce que la réalité du travail social n'est pas homogène. Hein. Elle est d'une très grande diversité. On peut passer d'une association qui gère un service avec une petite dizaine de salariés à des associations qui comptabilisent 2000 salariés. Donc, de ce fait, les conditions, les moyens ne sont pas les mêmes. Donc, selon l'endroit, le cadre de travail de tel et tel travailleur social, il peut bénéficier d'appuis techniques ou en tout cas de coopération avec d'autres professions que à côté d'autres travailleurs sociaux n'auront pas ces moyens, ce bénéfice.
Non, il existe une nouvelle catégorie de personnel, de profession, on va dire, c'est celle liée à la médiation sociale. Oui. Et là, il y a une très grande prudence des uns et des autres à ne pas mélanger les genres. Mmh. C'est un travail différent.
Non, je pense pas. Je pense que on a l'art et la manière de produire des soi-disant nouveaux métiers. Je pense que la médiation sociale, elle est au cœur du travail social. Intervenir comme Pierre, essayer de réguler les rapports sociaux entre les personnes rencontrant des difficultés dans leur logement avec les bailleurs, c'est quoi sinon que de prendre part à cette dimension de régulation, de tiers, de médiation entre des parties. La fonction du travail social, elle se situe à ce niveau-là. Alors qu'aujourd'hui, au sein du travail social, ou au sein plus exactement de ce social qui est un magma extrêmement large, on fait émerger des nouvelles fonctions en disant que ça constitue des nouveaux métiers, moi je reste extrêmement prudent.
Voilà. Peut-être que le lieu d'exercice change, le privé utilise beaucoup les médiateurs sociaux.
Oui, alors là, nous sommes dans une autre... Oui, là, ce que vous évoquez, une autre réalité. Hein. Aujourd'hui, le recours aux travailleurs sociaux, le recours à ces à ses fonctions n'est plus l'apanage du secteur associatif ni du secteur public. Hein. Bon, dans le Nord, le premier employeur en matière de travailleurs sociaux reste quand même le département, il faut bien le dire. Donc aujourd'hui, de plus en plus, le secteur privé, marchand, hein, a recours à des travailleurs sociaux, bien évidemment. Bon, dans la gestion des conflits qu'il peut avoir avec ses clients, certains ne se privent pas d'avoir recours à des compétences de travailleurs sociaux à cet effet, bien évidemment.
Donc toutes ces réflexions, on peut les retrouver dans le cadre des journées d'études organisées à Lille, à l'espace culture.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous évoquiez la question de la formation. Eh bien, c'est l'objet de la prochaine conférence qui a lieu mardi 7 février, puisqu'elle portera justement sur les formations en travail social. Et on se demandera si le modèle français a-t-il un avenir, justement. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'évaluation, qui renvoie bien évidemment, enfin qui sous-tend derrière ça la question de la légitimité. Nous la retrouverons également lors de notre journée d'études du 5 avril qui porte justement sur cette interrogation, hein, comment construire de nouvelles légitimités aujourd'hui dans le travail social. La question de l'évaluation va être abordée de manière frontale en présence de Michel Chauvière le 21 février. Le but de ces conférences, justement, c'est de saisir ce qui fait aujourd'hui question dans le travail social pour justement pouvoir prendre en compte et analyser ce qui traverse aujourd'hui le travail social en termes d'interrogation.
Donc vous êtes membre du conseil scientifique des conférences de l'espace culture, oui, et également donc directeur des missions transversales de la Sauvegarde du Nord. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette institution ?
La Sauvegarde du Nord, c'est une association qui œuvre dans le champ social et médico-social. C'est une vieille institution puisqu'elle a plus de 50 ans, qui est implantée dans le département du Nord, tout particulièrement sur l'île métropole, le Valenciennois, le Douaisis, le sud du département. Elle gère 80 établissements et services dans le domaine de la protection de l'enfance, des addictologies, de l'inclusion sociale, plus exactement de l'accompagnement en matière d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes en difficulté sociale, et également des établissements et services dans le champ du médico-social. Voilà, donc une diversité de publics accueillis qui vont de l'enfant à l'adulte, dans différents champs et couvrant une diversité de territoires.
Il existe plusieurs associations qui œuvrent dans ces domaines-là. Est-ce qu'il y a des contraintes d'appel d'offres, par exemple, par rapport aux institutions, par rapport aux collectivités ?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les modalités de financement des associations sociales et médico-sociales ont fortement évolué, notamment au cours de ces dernières années, avec une réglementation venant asseoir les appels à projets. Nous sommes passés, effectivement, la nature du rapport contractuel avec les autorités de contrôle et de tarification aujourd'hui est fortement modifiée. On va de plus en plus aujourd'hui vers des logiques d'appel à projet. Ça veut dire que, bien évidemment, c'est des nouvelles modalités, des nouvelles pratiques qui appellent de nouvelles compétences, mais qui, en même temps, met en concurrence aussi le secteur associatif, hein, puisque l'appel à projet consiste effectivement à présenter des projets avec le mieux-disant, j'allais dire, de qualité, avec un rapport avec un prix qui est celui le plus satisfaisant pour le financeur, il va sans dire que ça accentue ou ça exacerbe les relations entre les associations et surtout génère une incertitude quant à la pérennité des associations, hein, puisque leur devenir est quand même lié à à des financements permanents liés à ces appels à projets. C'est-à-dire que quand on n'est plus retenu hein, dans les appels à projets, ça veut dire que l'avenir financier de certaines structures est fortement questionné.
Youssef Boudjemaï, merci pour toutes ces précisions.
Merci à vous.